VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 4 militaires tués dans une attaque hier dans la région de Gao.
En Côte d'Ivoire, le député Alain Lobognon, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été condamné à 1 an de prison.
Le président de la France, Emmanuel Macron, salue la première transition pacifique en République démocratique du Congo.
Amnesty International a appelé hier à la libération immédiate et sans condition de l'opposant Maurice Kamto, arrêté lundi soir à Douala, au Cameroun.
Au Venezuela, manifestation de l'opposition aujourd'hui pour convaincre l'armée de tourner le dos à Nicolas Maduro et reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, 4 militaires maliens ont perdu la vie et 10 autres ont été blessés dans une attaque à Tarkint, dans le cercle de Bourem, région de Gao. Des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les assaillants, avant d'attaquer les camps, ont saboté le système de communication mis en place à travers les réseaux de téléphonie. C'est au moment où ils se sont rendus compte que les éléments en poste ne pouvaient plus communiquer qu'ils ont attaqué le poste de Tarkint. L'attaque était complexe parce qu'il s'agissait d'un véhicule kamikaze qui, selon certains habitants, a forcé son entrée dans les camps avant de se diriger vers le Mirador. Cette action a été suivie de tirs d'armes lourdes et légères. Dans le feu de l'action, 2 militaires maliens ont été tués, 10 blessés, dont 6 graves. Parmi les 6 blessés graves, 2 ont succombé à leurs blessures après leur évacuation sur l'hôpital de Gao. Par ailleurs, à Tombouctou, il y a eu un braquage suivi d'enlèvement de véhicules de Toyota Land Cruiser appartenant à Oumar Doukouré. Cette attaque a été menée par 3 individus armés non identifiés circulant sur une moto. Les assaillants ont surgi au passage de 10 véhicules au niveau du marché de bétail de Yobutao dans le quartier d'Abaradou pour extirper le conducteur avant de l'emporter. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, condamnation à 1 an de prison ferme d'Alain Lobognon, député de Fresco dans le sud et proche de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Lobognon doit aussi payer une amende de 600 000 francs CFA. On lui reproche un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un de ses collègues députés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Alain Lobognon, 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2015, a été reconnu coupable de propagation de fausses nouvelles, incitation à la violence et troubles à l'ordre public. Le procureur Richard Adou a estimé que son tweet a eu des conséquences avec les heurts entre forces de l'ordre et partisans du PDCI au quartier du Plateau à Abidjan. Au début de l'audience, le président lui a demandé d'enlever son écharpe de député. Les 9 avocats de la défense ont abandonné la salle car le président a refusé de donner suite aux exceptions qu'ils avaient soulevées. Alain Lobognon est un proche de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Il s'est prononcé contre un éventuel 3e mandat du président Alassane Ouattara. Pour Maître Afoussi Bamba Lamine, membre de la défense d'Alain Lobognon, il s'agit clairement d'un procès politique. L'avocate, ancien ministre et ancienne porte-parole des Forces Nouvelles, est aussi proche de Guillaume Soro. Le président Alassane Ouattara a annoncé que M. Soro allait quitter le perchoir de l'Assemblée nationale en février. La Côte d'Ivoire traverse une période de grandes manœuvres politiques en vue des élections de 2020 et le président Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé ses intentions.
Le président français Emmanuel Macron a écrit au nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, saluant la première transition pacifique en République démocratique du Congo. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Votre élection à la présidence de la RDC marque la première transition pacifique de l'histoire de votre pays. Elle est le fruit de la volonté d'alternance et de changement que les Congolais ont exprimé avec force et dans le calme, a écrit Emmanuel Macron dans cette lettre lue à la télévision d'État en RDC. Je suis certain que vous saurez répondre à ces attentes dans un esprit de dialogue et de consensus renchérit le locataire de l'Élysée. Il précise aussi que la France s'est toujours tenue aux côtés de la RDC pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour l'appuyer sur son chemin vers la paix, la stabilité et l'émergence. Emmanuel Macron a par ailleurs estimé dans son courrier que la place de premier pays francophone au monde de la RDC était une opportunité unique pour resserrer les liens entre les deux pays. Il a aussi appelé à la réouverture de la maison Schengen, fermée au début de l'année 2018 et qui faisait office de consulat en délivrant aux Congolais des visas court séjour pour 17 pays de l'Union européenne plus la Norvège. Pourtant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait émis des doutes le 20 janvier, peu après l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle.
En RDC même, quelques 500 personnes ont participé hier à Kinshasa à une messe à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018. Elles répondaient à l'appel d'un collectif catholique qui, à l'occasion, a invité le président Félix Tshisekedi à réorganiser la commission électorale de la RDC. Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des trois marches ont été cités et la mémoire d'autres disparus et victimes anonymes évoquées. Les membres des familles des victimes ont longuement été acclamés par l'assistance.
Cameroun, Amnesty International a appelé hier à la libération immédiate et sans condition de l'opposant Maurice Kamto, arrêté lundi soir à Douala, ainsi que celle d'autres opposants arrêtés lundi soir. Au lieu de prendre des mesures pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, nous constatons que les autorités tolèrent de moins en moins les critiques. Cela doit cesser, a déclaré Samira Daoud, directrice Afrique de l'Ouest et Afrique centrale d'Amnesty. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC Maurice Kamto, qui est officiellement arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre dernier, derrière le président Paul Biya, revendique toujours la victoire. Samedi, le MRC avait appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection de M. Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir.
Au Nigeria, les représentants des magistrats se sont rencontrés hier en session extraordinaire pour discuter de l'affaire Onoghen, le président de la Cour suprême, suspendu de ses fonctions à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle. John Lyndon fait le point.
Le juge Walter Onoghen a été suspendu depuis vendredi par le président Muhammadu Buhari. Une cour spéciale l'accuse de ne pas avoir déclaré des comptes bancaires en devise. Sa suspension par l'exécutif a été jugée inconstitutionnelle par l'opposition ainsi que par les observateurs de l'élection présidentielle prévue le 16 février prochain. Le porte-parole du Conseil national judiciaire indique qu'en raison de la gravité de la situation, le Conseil rendra sa décision finale dans les 7 jours ouvrables prochains pour donner le temps aux personnes concernées de répondre des accusations. Le Conseil national judiciaire a qualifié la suspension du juge Onoghen de coup d'État contre l'appareil judiciaire. C'est l'autorité qui devrait mener une enquête en interne avant de communiquer ses résultats au Sénat. Selon la constitution du Nigeria, le président de la Cour suprême ne peut être renvoyé que par le vote des 2/3 des sénateurs. Les autorités d'Abuja se défendent disant que le juge Onoghen n'est pas limogé, mais simplement suspendu.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Venezuela, l'opposition manifeste aujourd'hui pour convaincre l'armée de tourner le dos au président socialiste Nicolas Maduro et reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido, porté par un soutien international croissant. Chef du Parlement, ce député de droite, âgé de 35 ans, s'est autoproclamé président par intérim. John Bolton, conseiller du président américain Donald Trump en matière de sécurité nationale, a mis en garde contre de sérieuses conséquences après que le procureur du Venezuela a demandé à la Cour suprême d'empêcher M. Guaido de quitter le pays et de geler ses comptes bancaires jusqu'à la fin de l'enquête ouverte à son encontre pour, je cite, des actions ayant porté atteinte à la paix de la République. Lundi, les États-Unis avaient imposé des sanctions à la compagnie pétrolière vénézuélienne.
Les responsables des services de renseignement américains mettent en garde contre ce qu'ils appellent un avenir encore plus périlleux pour les États-Unis, où l'Amérique risque de voir son influence diminuer, ses alliés chanceliers et ses principaux adversaires unir leurs forces pour entamer les normes qui ont pu assurer jusqu'ici la sécurité au pays et rendre le monde plus stable.
Une grande partie du nord des États-Unis subit une vague de froid historique avec des chutes de neige et des températures polaires. Le point avec Raissa Girondin.
L'alerte au grand froid a été donnée dès lundi dans plusieurs États du Midwest. Les écoles ont été fermées dans le Wisconsin, le Michigan, l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa. Dans le Wisconsin, les tribunaux et la plupart des administrations sont fermés. La vague de froid accompagnée de fortes rafales de vent ira jusqu'à moins 50 degrés Celsius dans le Dakota du Nord. À l'aéroport de Minneapolis-Saint-Paul, le mercure atteint moins 32 degrés Celsius. Dans la ville de Des Moines, dans l'Iowa, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 30 Celsius. À Chicago, la neige tombe sans arrêt depuis 14 jours. Plus d'un millier de vols ont été annulés. Ce mauvais temps devra toucher la Caroline du Nord et la Virginie. Autour de Washington, la capitale, les administrations fédérales et les écoles ont fermé hier avec 2 heures d'avance. La neige est même tombée en Géorgie, dans le sud des États-Unis, réputée pour ses grandes chaleurs. Et le pire est à venir car la météo annonce un grand froid plus glacial pour demain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le nouveau code pétrolier du Sénégal, adopté la semaine dernière, stipule que les ressources en hydrocarbures sont la propriété du peuple sénégalais, alors qu'elles appartenaient à l'État dans le code de 1998. Il prévoit aussi que les opérations pétrolières ne peuvent être confiées qu'à des personnes morales et non plus à des individus. En plus, l'attribution de blocs résultera d'un appel d'offres international ou de consultation directe au lieu de relever de la discrétion du ministre de tutelle. La révision du code pétrolier intervient alors que le Sénégal doit officiellement commencer l'exploitation de ses ressources en gaz et de pétrole à partir de 2021-2022. Gemcor Capital, une société de gestion de placement indépendante, a annoncé son intention de soutenir la restructuration de l'économie du Zimbabwe par un prêt de 250 millions de dollars sur 5 ans. Cette mesure aidera le pays à stimuler l'importation de biens essentiels tels que l'électricité, les carburants et les médicaments. Pour finir, la Commission tunisienne des analyses financières déclare avoir reçu environ 600 déclarations de soupçons de corruption financière et de flux financiers suspects provenant de l'étranger en 2018. Après analyse, 30 comptes bancaires suspects ont été gelés, 30 dossiers ont été déposés auprès du procureur de la République et 200 millions de dinars provenant de l'étranger et destinés à être blanchis en Tunisie ont également été gelés.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire est finalement d'accord pour organiser la CAN 2023.
Oui, c'est le président de la Confédération africaine de football qui l'a annoncé hier au terme de sa rencontre à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. Écoutons Ahmad Ahmad.
Je remercie sincèrement le chef de l'État de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Nous sommes des Africains. Il y a le principe des NES aussi. Et la Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc ce que je peux vous dire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 2021, 2023 et 2025.
Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, au micro de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. La Fédération ivoirienne de football avait auparavant saisi le tribunal arbitral du sport contre le décalage de sa CAN en 2023 en lieu et place de 2021. La FIFA va à présent retirer ce recours qu'elle avait déposé devant le TAS.
De leur côté, les Comores ont confirmé leur recours au TAS.
C'est officiel, la Fédération de foot de Comores a déposé une procédure d'appel auprès du TAS contre la décision de la CAF de refuser d'exclure le Cameroun de la CAN 2019 après lui avoir retiré l'organisation, a écrit sur son compte Twitter Ben Amir Saadi, manager général de la sélection comorienne. Alors que le Cameroun est toujours en lice pour la CAN 2019, les Comores s'estiment lésés par l'absence de sanctions sportives à l'égard des Lions Indomptables. Ils réclament l'application du règlement de la CAN qui prévoit la disqualification du pays s'étant vu retirer l'organisation. La CAF a décidé de ne pas suspendre le Cameroun qui a perdu son statut de pays hôte. Pour le moment, Camerounais et Comoriens se disputeront la qualification sur le terrain en mars prochain à Yaoundé lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Pour se qualifier, les Koélankantes doivent vaincre les Lions Indomptables avec 2 buts d'écart. On finit avec du basketball avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Cleveland et Washington 116 à 113, Milwaukee et Détroit 115 à 105, Oklahoma City et Orlando 126 à 117, Brooklyn et Chicago 122 à 117, la Nouvelle-Orléans et Houston 121 à 116, San Antonio et Phoenix 126 à 124.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, malaise au sein de la nouvelle majorité issue des élections sur la question du partage des postes gouvernementaux et l'administration des provinces. Une des principales plateformes du Front commun pour le Congo, coalition qui a obtenu la majorité des sièges, a dénoncé dans une lettre, et je cite, « l'égoïsme et le non-respect du principe de la représentativité ». Eddie Isango discute de la situation avec l'analyste politique Israël Moutala, rédacteur en chef du magazine 7 sur 7 à Kinshasa.
Comme l'a dit l'auteur de la lettre, qui est un cadre éminent de l'ex-majorité présidentielle du Front commun pour le Congo, il a parlé de malaise. Le malaise était prévisible parce que vous avez le gâteau qui s'est rétréci alors que il y a plusieurs personnes à se le partager. Donc ça amène des tensions importantes. Donc le partage du pouvoir, le partage de postes va créer des tensions, de profondes tensions au sein de la majorité présidentielle car il n'y en aura pas pour tout le monde.
Il parle d'égoïsme et du non-respect du principe élémentaire de poids proportionnel national. Concrètement, qu'est-ce qu'il exige dans cette lettre?
Tilukwebo, il est président de l'AFDC et allié, son regroupement politique, qui est un des regroupements les plus importants à l'Assemblée nationale et même dans les assemblées provinciales. Il exige que la règle de la proportionnalité qui a été décidée, soit un ministre pour 11 députés, soit respectée. Si on respecte cette règle-là, avec les nombres de députés qu'il a, il peut obtenir à peu près 4 ministres. Donc je pense qu'il n'a pas pu les obtenir. Voilà pourquoi est-ce qu'il parle d'égoïsme, du non-respect de cette règle-là. Cette lettre d'abord s'adresse à Nehemi Mwilanya qui pilote justement les négociations parce que c'est lui le coordonnateur du FCC.
Est-ce que ce malaise est causé par la part que l'on veut faire au cash du PC allié et un peu aussi à la Mouka parce qu'on parle d'une politique des portes ouvertes?
C'est aussi ça le cas, mais il y a ce besoin de rupture, ce besoin de changement. Donc il y a un premier signal qui va être donné par le nouveau président, c'est de réduire le nombre de portefeuilles ministériels. Il y a aussi le fait que les 4 ministères régaliens, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Défense, sont des ministères qui ne sont pas vraiment concernés par le partage de portefeuilles. Ce sont des ministères qui sont laissés à la discrétion du président de la République, ce qui fait que il y a très peu de postes à partager et il y a beaucoup de coalitions, il y a beaucoup de plateformes qui veulent participer. Et donc, vous avez d'abord la majorité présidentielle qui a ratifié large, qui a absorbé une partie de l'opposition à la faveur des accords de la CENCO. Et vous avez maintenant une partie de l'opposition qui est maintenant à la présidence, qui va devenir partenaire de l'ancienne majorité, qui aura aussi besoin d'un quota. Nous voyons dans ce registre-là l'UDPS, qui a aussi des alliés, qui a l'UNC. Et donc il faudra aussi ménager une petite fenêtre aux dissidents de la Mouka. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu de luttes. C'est ce qui amène des tensions. Et ces tensions d'abord ont commencé au sein de la majorité présidentielle. Et c'est ce qui va encore aujourd'hui s'accentuer. Bati, c'est parce qu'il a le verbe haut, il a la parole libre. Il s'est exprimé publiquement. Je pense que cette frustration concerne aussi d'autres cadres de la majorité qui n'ont pas encore délié leur langue.
Israël Moutala, rédacteur en chef du magazine 7 sur 7 à Kinshasa.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Des ministres, des experts et des partenaires des pays affectés par le conflit dans le nord-est du Nigeria sont réunis à Abuja pour trouver une réponse à la crise humanitaire dans la région du lac Tchad. C'est l'une des plus graves au monde et les besoins humanitaires sont estimés à 848 millions de dollars. Les détails avec Gilbert Tamba qui suit pour nous la conférence.
La région du bassin du lac Tchad est régulièrement la cible d'attaques sanglantes de Boko Haram depuis 2009. Dans le nord-est du Cameroun, dans la région du Diffa au Niger, dans le nord du Cameroun et dans l'est du Tchad, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur village et d'autres ont été victimes des massacres, de la malnutrition et des maladies. Djibril Bintou est inspectrice générale des services au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger.
Oui, les défis restent encore à relever parce que la guerre asymétrique n'est pas encore terminée. Quels que soient les efforts qui sont faits, du moment où la guerre asymétrique n'est pas terminée, donc il doit falloir toujours continuer à faire des efforts en ce qui concerne la prévention, la prise en charge et la réponse.
Au Nigeria, les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 7 millions de déplacés dans les états de Borno, Adamawa et Yobe. Plus d'un million de Nigériens ont fui leur pays pour échapper à la violence et se sont réfugiés dans les pays voisins. Parmi ces pays, le Tchad qui continue jusqu'ici à enregistrer de nouveaux arrivants, selon son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous parle de la nécessité d'une synergie d'action pour résoudre la crise. Mohamed Abali Salas.
Je pense qu'il faut avoir un mécanisme de synergie d'action entre les gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements des pays concernés et les partenaires humanitaires ou du développement. Il faut que tout le monde dise la même chose. C'est-à-dire des actions qui ne sont pas ensemble ne peuvent pas donner un impact, surtout sur ces problèmes aujourd'hui qui deviennent un problème pas seulement pour les pays concernés, mais c'est un problème du monde entier.
C'est pour faire face à la crise que le gouvernement du Nigeria, les Nations Unies et des partenaires sont réunis à Abuja. Objectif, lancer conjointement la stratégie de réponse humanitaire pour 2019-2021 et le plan de réponse régionale pour les réfugiés 2019-2020. Wolka Tork est le haut commissaire adjoint du HCR chargé de la protection.
C'est extrêmement important de trouver des moyens de soutenir les communautés hôtes et les pays hôtes comme le Cameroun, comme le Niger, comme le Tchad, qui ont reçu depuis des années des réfugiés du Nigeria. Alors il y a plus que 230 000 réfugiés du Nigeria qui sont dans ces pays.
C'est au Nigeria en 2010 que le groupe militant islamiste Boko Haram est apparu, revendiquant l'instauration d'un califat dans le nord du pays. Les combattants de Boko Haram sont à l'origine de nombreuses attaques terroristes ayant déjà engendré la mort de plus de 20 000 personnes et des déplacements massifs de populations. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, de gros efforts sont faits pour protéger la faune, mais des mesures sont prises simultanément pour protéger les agriculteurs contre les ravages que peuvent causer par exemple les éléphants. Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dans le village de Ngongwe, dans la province de l'Ogoué-Maritime, à l'est du Gabon, il ne reste plus grand-chose de l'exploitation de palmiers à huile du chef de village Jean-Gustave Rembentevo. Il est l'une des victimes en date des incursions des éléphants dans les plantations de la région.
Même les palmiers à huile, là, sont presque détruits. On ne peut pas intervenir. Parce que normalement, les éléphants, en ce moment, sont plus protégés que nous, les humains, parce qu'on ne peut rien faire.
Ici, les plaintes des agriculteurs n'aboutissent à rien. Le Gabon est signataire des conventions internationales en matière de protection de pachyderme.
Dans les villages, on vit de la pêche, on vit de la chasse. Mais depuis que les éléphants sont descendus dans notre village, dans le département, dans le canton, ici, le village Gongo est beaucoup touché par rapport aux autres.
Calqué sur le modèle kényan qui a déjà fait ses preuves, le Gabon expérimente depuis 3 ans le projet Philphone. Ce projet consiste à poser les clôtures électriques où les passages d'éléphants sont fréquents, comme dans ce village du nord-est du pays. Mais il n'a pas encore couvert le territoire national. Gustave Kouka est secrétaire exécutif adjoint de l'Agence nationale des parcs nationaux.
Il ne reste pas moins que tout le Gabon est impacté. C'est un processus qui ne fait que commencer. C'est un processus à long terme. Nous avons commencé certes par le Guébindo, nous allons enchaîner sur d'autres provinces, donc il faudrait que les populations soient patientes, notre équipe n'est pas assez étouffée, c'est un processus et nous viendrons au temps opportun vers ces localités pour pouvoir régler les barrières électriques.
En avril 2017, le Gabon avait accueilli une conférence internationale sur la réduction des conflits homme-faune. Le financement de ce projet, initiative de la Banque mondiale et du Programme mondial pour la faune, estimé à 5,5 milliards de francs CFA, est encore loin d'atteindre la promesse des fleurs. Libreville, Ismaël Obiangze pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, certaines églises accueillent des immigrants en situation irrégulière. C'est le cas de Rosa Gutierrez López, qui avait reçu l'ordre de quitter le territoire américain le 10 décembre. Elle s'était alors réfugiée dans une église de Bethesda, dans le Maryland, pour éviter d'être renvoyée au Salvador et abandonner ici ses trois enfants américains. C'est le tout dernier cas d'immigrants clandestins réfugiés dans un sanctuaire. Ce mouvement s'est développé depuis que l'administration Trump est entrée en fonction il y a 2 ans. Reportage de Bill Rogers, repris ici par Lionel Gahima.
À l'église universaliste unitarienne de Cedar Lane, c'est un dimanche matin typique. Les fidèles viennent écouter un message progressiste et l'appel à aider ceux qui sont dans le besoin. Surtout la salvadorienne sans papier qui vit dans ce sanctuaire, dernier espoir de Rosa Gutierrez López.
Je suis convaincue que je pourrais rester ici pour me battre pour mes enfants. J'ai un garçon atteint de trisomie qui a de nombreux besoins spéciaux.
Muchos especialistas.
Officiellement accueillie lors d'une cérémonie dans l'église à la mi-décembre, Rosa López s'est réfugiée ici lorsque les autorités fédérales lui ont ordonné de quitter le pays. Mère de 3 enfants, née aux États-Unis, elle demande l'asile pour fuir la violence des gangs au Salvador. Elle porte un appareil de surveillance du gouvernement et exprime son désespoir, les larmes aux yeux.
Mon garçon trisomique ne sait pas que je suis dans cette situation. Mon garçon de 9 ans sait que je suis à cet endroit, mais ne comprend pas pourquoi. Ma fille de 11 ans le sait, mais elle me dit « Maman, tu nous manques, je veux que tu sois avec nous ». Je lui réponds que je ne peux pas, parce que si je sors de l'église, les services de l'immigration vont m'arrêter et m'expulser.
Hector Pérez Casillas est l'avocat de Rosa López.
Je pense qu'elle et ses enfants courent un grave danger. Ils seront immédiatement pris pour cible car ils savent qu'elle est aux États-Unis depuis longtemps, qu'elle a des enfants américains et que l'un d'eux est malade, ce qui en fait une cible particulièrement vulnérable.
Rosa est l'une des 50 personnes vivant dans des églises sanctuaires à travers le pays pour éviter d'être expulsées. Leur nombre a augmenté depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Le nombre des congrégations protégeant ces immigrés clandestins est aussi passé de 400 en 2017 à 1100 aujourd'hui, selon le Church World Service. Cette augmentation reflète le durcissement de la politique d'immigration de l'administration Trump, d'après Noel Anderson du Church World Service.
Ils voient que des personnes sont en train de se déshumaniser et leur répondent par la foi, qui consiste à dire que nous devons traiter tout le monde comme des enfants de Dieu.
Les églises sanctuaires pouvaient craindre de raids, mais pour l'instant, les services de l'immigration respectent les directives interdisant aux forces de l'ordre d'entrer dans les églises, les écoles ou les hôpitaux. Stephen Camarota, avocat de l'immigration.
On peut comprendre que dans chaque camp individuel, vous pourriez dire, eh bien, nous pourrions faire une exception pour ce gentil garçon, cette gentille fille. Et je pense que tout le monde ressent beaucoup de sympathie. Mais quand vous faites cela, vous vous retrouvez avec l'ampleur de l'immigration clandestine que nous avons maintenant.
L'église de Cedar Lane ne pouvait rester sans rien faire. Le révérend Abby Janamanchi explique.
When Rosa reached out,
lorsque Rosa a pris contact avec nous et que nous avons entendu son histoire, nous avons estimé que nous devions faire quelque chose, gagner un peu de temps en attendant qu'une procédure soit engagée en justice.
Comme les procédures judiciaires sont souvent très longues, Rosa Gutierrez López vivra environ 2 ans dans l'église et n'est jamais perdu espoir de trouver un jour une solution.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du VIH-Sida et du mariage.
De plus en plus, le test du Sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les partenaires. Dans certains cas, la séropositivité d'un des partenaires met un terme au projet de mariage.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Philippe Cugnot, médecin en RDC. Il nous dira s'il est possible de vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs.
Nous écouterons le témoignage de Joël, un séropositif marié à une femme séronégative. Nous avons aussi recueilli les avis de quelques auditeurs.
Votre santé, votre avenir est en programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.